Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, vous êtes bien sur RMC, matinale spéciale pouvoir d'achat, on s'occupe de vous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Combien coûtera votre paquet de pâtes l'année prochaine? C'est à partir de ce matin et pendant les 3 prochains mois que les prix dans les rayons des supermarchés vont se négocier entre industriels et grandes distributions. Qui veut quoi? À quoi s'attendre? On vous détaille tout ça ce matin en cette matinée spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Le maire de Saint-Étienne sera-t-il condamné? Question ce matin, il y aura la réponse dans la matinée dans la retentissante affaire du chantage à la sextape. Et sommes-nous dans les temps? Avant les JO d'hiver en 2030, inspection générale du CIO, vous verrez à partir de ce matin dans les Alpes.
C'est parti pour 3 mois de débats, souvent tendus, parfois même brutaux.
Entre les industriels et la grande distribution, qui vont donc négocier à partir de ce matin et jusqu'à fin février, les prix de tous les produits, pâtes, poulet, fromage, café, que l'on paye dans les rayons des supermarchés, que l'on paye de plus en plus cher d'ailleurs, puisqu'il n'arrête pas d'augmenter depuis la rentrée. Victor Joannin, c'est vous qui allez suivre ces négociations pour RMC. Expliquez-nous très concrètement, qui veut quoi dans ces négos?
Eh bien, selon les toutes premières remontées, les fabricants industriels comme Fleury Michon ou Bonduel, mais aussi les géants mondiaux comme Heineken ou Nestlé demanderaient 2% de hausse en moyenne tout produit confondu pour compenser l'augmentation de leur coût de production. En face, les distributeurs devraient demander une baisse et au final, dans vos caddies, la hausse devrait être contenue. C'est en tout cas l'estimation de Nicolas Facon, le président de l'ILEC, la Fédération des Grandes Marques.
Aujourd'hui, on est revenu à une inflation qui est très très modérée. Depuis le début de l'année, elle est à plus 1% en fait sur les produits de grande consommation, plus 1,3 pour être très précis. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que si inflation il y a, elle sera contenue, elle sera modérée.
Sachant qu'attention, les prix finaux dans les rayons dépendront de chaque enseigne, les enseignes qui se livrent une guerre des prix sans merci.
Alors on sait que généralement ces négociations sont très tendues avec des fuites habituelles dans la presse quand on arrive vers la fin. Cette année, tout le monde s'est entendu, tout le monde a signé une charte qui est censée apaiser les tensions.
Oui, une charte de bonne conduite impulsée par le gouvernement et signée hier dans la toute dernière ligne droite. Cette charte doit permettre aux PME françaises de négocier en premier avec la grande distribution avant les grandes marques. Elle engage le secteur à valoriser des produits frais et locaux et enfin elle encourage toutes les parties à préserver un cadre de négociation serein, par exemple en évitant les rendez-vous annulés à la dernière minute ou les appels au milieu de la nuit, parce que oui, ça existe. Cette charte est non contraignante, donc avant tout symbolique, mais c'est un bon signal pour apaiser les tensions entre les industriels et la grande distribution.
Voilà pour toutes les explications ce matin, signé Victor Joannin, entrant en cette matinale spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Autre négociation du moment, celle autour du sort de la guerre en Ukraine. Il y a de bonnes chances que ça aboutisse. Voilà ce qu'a dit Donald Trump durant la nuit, après une réunion aux États-Unis entre Américains et Ukrainiens, et avant une autre demain en Russie, entre Russes et Américains. Cette fois, Volodymyr Zelensky, lui, est de retour à Paris ce matin. Il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour s'assurer du soutien une nouvelle fois des Européens. Nouvelle semaine de discussion qui commence autour du budget pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui va enchaîner les rendez-vous avec responsables politiques et partenaires sociaux, alors que le budget de la Sécu sera de retour à l'Assemblée demain. En attendant, il écrit une lettre aux entrepreneurs publiée ce matin dans laquelle il dit que plus que la fiscalité, le vrai danger pour le pays est l'absence de budget. Alors, puisqu'on parle de la sécurité sociale, grand changement ce matin, la Sécu rembourse désormais à 100% les fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, avec des restes à charge qui souvent étaient exorbitants. Emmanuel Macron avait promis de changer ça. Il se félicite de réparer, je cite, une injustice énorme. Et c'était très attendu par les premiers concernés, Solène Leroux.
Le prolongement de son corps, c'est ainsi que Liliane, atteinte de sclérose en plaques, voit son fauteuil depuis près de 50 ans. C'est un compagnon coûteux.
Un fauteuil de plus de 15 000 euros.
Jusqu'ici remboursé en partie tous les 5 ans par la Sécurité sociale, avec des avances de frais, de nombreux dossiers à remplir.
C'est bien entre 6 et 7 demandes.
Et ce, à chaque renouvellement, et surtout des frais supplémentaires de 5 à 7 000 euros à payer de sa poche. Impossible avec une allocation handicap comme seul revenu. Liliane, comme beaucoup, s'est tournée vers des associations.
Qui vous donnent par petits bouts. Moi, j'ai toujours le sentiment de mendier. Je supporte pas ça. Je trouve c'est très humiliant de devoir demander.
Alors ce remboursement intégral, Liliane l'accueille d'un mot.
Ouf ! Me dire demain, je peux faire autre chose que de rester là-dessus, angoissée, de me dire comment je vais faire pour financer mon fauteuil. J'aurais pu ça.
L'assurance maladie s'engage à valider le devis pour un fauteuil et toutes ses potentielles options médicales en 2 mois maximum. Si ce délai n'est pas respecté, le fauteuil sera alors automatiquement remboursé. Liliane attend de le voir pour le croire.
On est le 1er décembre ce matin et on est à 100 jours tout pile du premier tour des élections municipales. Et Jordan Bardella du RN dénonce une brutalisation du débat démocratique. Après s'être fait écraser un œuf sur la tête durant le week-end dans le Tarn-et-Garonne, visé par un septuagénaire qui était placé en garde à vue, récidiviste, hein, puisque ce septuagénaire avait fait pareil à Éric Zemmour en 2022. Et alors à 100 jours des élections municipales, le sort du maire de Saint-Étienne va se jouer ce matin au tribunal correctionnel de Lyon, où les juges vont rendre leur délibéré dans la retentissante affaire du chantage à la sextape. Une partie de l'équipe municipale à Saint-Étienne accusée d'avoir piégé le premier adjoint de l'époque en le filmant avec un escort boy. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC. Le maire, Gaël Perdriau à Saint-Étienne, clame son innocence, mais le jugement tout à l'heure pourrait être lourd de conséquences.
Oui, il risque carrément de la prison ferme et d'être empêché de se représenter au municipal si le tribunal suit les réquisitions de la procureure. À l'audience fin septembre, elle avait réclamé 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Ce qui veut dire que même s'il faisait appel, Gaël Perdriau serait privé de scrutin municipal. En attendant, comme depuis le début de cette affaire de chantage à la vidéo intime contre son ex-premier adjoint, l'actuel maire de Saint-Étienne affiche sa sérénité. Hier encore, sur Facebook, il pointait une absence de preuves, en dépit d'un dossier pourtant accablant, des aveux de ses collaborateurs à la barre et de plusieurs enregistrements compromettants. Comme lui, 3 anciens membres de son entourage risquent également de la prison ferme.
Je vous signale que le bilan des inondations s'alourdit encore ce matin en Asie du Sud-Est. D'après les secours, il dépasse désormais les 1000 morts, plus de 500 rien qu'en Indonésie, et toujours autant de disparus. On reparle des Jeux Olympiques d'hiver, ceux de 2030 qui vont se dérouler dans les Alpes. Pourquoi on en reparle? Parce que le CIO, le Comité International Olympique, entame ce matin une visite de 3 jours dans les Alpes avec des étapes à Val d'Isère, à Courchevel et au Grand Bornand. Léna Marjac, vous allez tout nous dire pour RMC. C'est un peu une inspection des lieux pour voir si tout va bien avant 2030.
La carte des sites est quasiment finalisée à 95%, mais le boss d'Alpes 2030, Edgar Gros-Piron, doit encore répondre à certaines questions. Déjà, quel sport additionnel? Selon nos informations, le trail et le ski freeride pourraient faire leur entrée, même si les fédérations des sports d'hiver se sont unies pour contester l'arrivée de sports d'été comme le trail. Quid de la patinoire? Prévue à Nice et construite dans le stade de football, cette structure est farouchement critiquée, déjà par son coût, plus de 100 millions d'euros, mais aussi par raison écologique. Et enfin, une dernière inconnue persiste. Où sera l'anneau de vitesse utilisé pour le patinage de vitesse? La France ne dispose pas d'une structure pareille. 2 options se présentent à Edgar Gros-Piron et ses équipes. Délocaliser ses épreuves soit sur l'anneau de Turin en Italie, soit utiliser celui des Pays-Bas.
Et puis c'est Lens qui est en tête de la Ligue 1 de foot ce matin. 21 ans que c'était pas arrivé pour les Lensois vainqueurs à Angers 2-1 hier, qui profitent en fait des faux pas de Paris et de Marseille. Deuxième et troisième respectivement à l'issue de la 14e journée Ligue 1.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h08. Tiens, je voudrais vous signaler que cette semaine, ce sera le coup d'envoi des 100 jours avant les municipales. Et le coup d'envoi, il est sur RMC à partir de 9h, les GG, les grandes gueules qui seront en direct et en public depuis le carreau du Temple à Paris. Les GG qui recevront les maires de Nice, de Perpignan, de Montpellier. Coup d'envoi donc des municipales sur RMC. Ce sera à suivre sur RMC et RMC Story. D'ici là, on poursuit notre matinale spéciale pouvoir d'achat et on parle économie tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chip, vous vous penchez sur l'hypermarché, le maxi giga hypermarché. Est-ce que c'est le début de la fin?
Ça fait un petit moment hein, que déjà ça a commencé. Hein. Alors le summum, l'apogée pour ces grandes cathédrales de la consommation, c'était plus de 10 000 mètres carrés, jusqu'à 80 000 références. C'était vraiment les années 2000. Et c'est à 2008 précisément qu'on peut dater le début du déclin du modèle de l'hypermarché. Il y a le tournant de la crise financière, il y a la remise en question de la consommation de masse un peu irréfléchie, il y a la montée en puissance fulgurante du hard discount, hein, les Lidl, les Aldi, il y a la montée du drive aussi, qui le Clear Drive, ça naît en 2007, ça explose vraiment en 2010, mais vraiment 2008, c'est le début du déclin du format de l'hypermarché.
Et puis il y a la révolution du numérique, bien sûr.
Oui, mais pas que. Il y a bien sûr alors Amazon, Shein, Temu ont contribué à la baisse de la fréquentation, en particulier des rayons non alimentaires qui ont quand même perdu 40% de leur clientèle par rapport aux belles années. Mais quand on sait que Amazon, Shein, Temu font chacun plus de 15 millions de clients tous les mois, on comprend un peu pourquoi. Mais c'est aussi que l'hypermarché n'a pas su adapter son offre, souvent jugée ringarde, hein, puisque de nombreux discounters, eux, dans des magasins physiques, ont su capter la clientèle. On pense à Primark pour les vêtements, on pense à Action pour les objets du quotidien. Donc oui, c'était possible de garder dans des magasins physiques des produits attractifs, renouvelés souvent et très bon marché.
Si on essaie de se projeter, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il y a un avenir d'ailleurs pour l'hypermarché?
L'hypermarché est en train de se réinventer, hein. L'hypermarché de demain, il sera forcément plus petit, 10 à 30% de taille en moins par rapport à l'hypermarché d'aujourd'hui. Il va se recentrer sur l'alimentaire, avec plus de place accordée aux rayons frais, la boucherie, les poissonneries, les fruits et légumes, le rayon traiteur, avec des marques de distributeurs, mais premium. Vous voyez, on va créer encore une nouvelle catégorie, avec la mise en avant de produits locaux. Il va mettre aussi l'hypermarché du futur le paquet sur la restauration sur place et à emporter. Regardez la multiplication des food courts un petit peu. Regardez la multiplication des rayons sushi, par exemple, dans toutes les grandes surfaces. Ils vont substituer les linéaires permanents aux rayons événementiels, mais la rentrée scolaire, Noël, Pâques, tout ça. Et puis, en gros, ce sera un hypermarché qui sera moins grand et plus gourmand.
Plus gourmand et peut-être un peu plus local. Merci, voilà. Emmanuel. Je vous signale qu'à 8h30 tout à l'heure, mon invité, ce sera Michel-Edouard Leclerc. 8h11 sur RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant sur RMC, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Et puis juste après Michel-Edouard Leclerc, ce sera le retour de Nicolas Canteloup, ses meilleures imitations. Et ce sera donc à 8h50 comme tous les matins sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
8h14 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour. Bonjour en ce 1er décembre, Apolline.
Bonjour.
C'est le début des calendriers de l'Avent et oui, je suis un peu votre calendrier de l'Avent du LOL.
Oh, oui.
Et d'ailleurs, on va faire chaque jour, on ouvre une fenêtre et il y a une blague, c'est le calendrier de l'Avent du LOL. Attention, aujourd'hui, c'est l'histoire d'un panda. Il en avait marre de la vie. Alors un jour, il se panda.
Oh. Non, voilà. C'est pas du tout LOL.
C'est le calendrier de l'Avent du LOL. Pauvre panda. Allez, assez rigolé,
ouais,
parce que l'actu est quand même dramatique ce matin avec cet attentat. Non, c'est pas ça la musique, mais c'était BFM en fait. Mais voilà. En fait, Apolline, Jordan Bardella a été victime d'un jet d'œuf ce week-end.
Oui.
Alors qu'il était en dédicace de son livre, un homme de 74 ans lui a acheté un œuf. Il avait déjà pris de la farine jeudi. Là, un œuf, si quelqu'un lui jette du lait, il va pouvoir faire des crêpes.
Oui.
C'est un attentat odieux. La tour Eiffel sera illuminée aux couleurs de Basic Fit. Et la grande mosquée rendra hommage à l'œuf. Petit ange parti trop tôt. Alors, l'agriculteur retraité de 74 ans qui lui a jeté un œuf dessus, probablement radicalisé en écoutant France Inter d'ailleurs. Karine Le Marchand est entendue dans les locaux de l'antiterrorisme. D'après elle, l'agriculteur serait toujours puceau à 74 ans. Et c'est pour ça qu'il serait très nerveux. Alors Jordan Bardella a réagi sur Twitter, je sais pas si vous avez vu, il a mis « Je vais bien, merci à tous pour vos messages de soutien. Plus nous progressons, plus la violence de l'extrême gauche se déchaîne. » Ouf.
Ouais.
Oh, il va bien. On a eu peur, mais tellement. Bon, en vrai, Jordan, on n'était pas tellement inquiets. Autant oui, si un homme de 74 ans lance un œuf dur dans le thorax d'Éric Zemmour, c'est comme un coup de flashball pour lui, à bout portant. Mais Jordan, c'est Monsieur Muscle. C'est le genre de message qu'on t'écrit quand on t'a tiré dessus, ça. Et on n'a pas vu Bardella, le poing levé comme Trump, avec du jaune d'œuf qui coule sur l'oreille, comme ça. Fight! Non mais un œuf, a priori, c'est pas dangereux. Tiens, Macron reçoit Zelensky ce matin. Il va pas lui dire, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour repousser les Russes, on va te fournir des camions avec des œufs.
Ah.
Si tu les lances suffisamment fort sur une centrale électrique, tu peux paralyser Moscou. Tu les jettes sur des soldats, tu fais « Tiens, tiens, prends ça !» Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. N'insistez pas.
Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Justement, Volodymyr Zelensky sera reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à Paris.
Oui, encore. Encore, je suis sûr qu'il a une chambre d'amis rien que pour lui à l'Élysée. Il a une petite tasse avec son nom, sa brosse à dents, son pyjama en pilou kaki. Il a un double des clés. Il doit se faire engueuler quand il rentre trop tard du marché de Noël. Dis donc, Volodymyr, c'était à cette heure-là qu'on rentre. Avec Brigitte, on était morts d'inquiétude. Tu sais que Paris à 23h, c'est plus dangereux que Mariupol. Va dans ta chambre. T'es puni. Qu'est-ce que c'est que tout ce nougat? Ben non, c'est parce que j'ai entendu Arnaud Demanche à 7h20 parler des marchés de Noël. J'ai voulu faire un tour pour vérifier. C'est vrai que c'est des arnaqueurs, hein, les marchands de nougat. Au petit-déj, Macron et Zelensky vont pouvoir discuter.
Alors Volodymyr, t'as bien dormi? Dis-moi, le chèque que tu m'as donné la semaine dernière pour les 100 rafales.
Oui, parlons-en, oui.
Je suis allé vérifier, il a été rejeté par la banque.
Ah bon? Moi, je vais aller au LCL Kiev.
Non, moi, je suis un peu dans le rouge, là. Je suis à moins 3500 milliards. Je comptais un peu dessus pour les fêtes. Je sais pas bien ce qu'il espère, d'ailleurs, Zelensky. Parce que Macron, Trump l'écoute pas. Poutine l'écoute pas. Les Français l'écoutent plus.
Non.
Macron, c'est le François Feldman de la politique. Plus personne l'écoute. C'était à la mode il y a...
Dominique Pellicot cherche un éditeur pour le livre qu'il a écrit en prison.
Oui, c'est une vraie info. Dominique Pellicot, le mari de Gisèle Pellicot, donc il a drogué pendant 10 ans avant de lui faire subir des horreurs, a écrit en prison et il cherche un éditeur pour son livre afin, je cite, de raconter sa version. Alors, je l'ai lu, le livre, il a fuité, je l'ai lu, je me suis endormi.
Trois pages.
Je me suis réveillé en ayant la gerbe.
Au moins, on
est sûr que c'est Dominique Pellicot qui l'a écrit. Non, mais quelle audace, quoi. Michel Fourniret, il a pas osé faire mon guide du routard des meilleurs villages des Vosges. Patrick Balkany, il a pas fait un guide de la fiscalité. Enfin, alors, son avocate explique, je cite,
pour le moment, il y a beaucoup de frilosité de la part des maisons d'édition.
Tu m'étonnes! Oh! Qui va se lancer là-dedans? À part le BHV, évidemment.
Ami de la littérature.
BHV édition présente le livre de Dominique Pellicot. Je sais, même moi ça me dégoûte. Mais en même temps, ça se vend, hein, si ça se vend, si les gens achètent. Et pour chaque livre de Dominique Pellicot acheté, une poupée chine est offerte.
Oh non,
j'imagine l'attaché de presse du livre.
Alors, l'auteur sera disponible pour des interviews, mais au parloir, et c'est mieux de pas y aller seul. Hein. Prenez du café, Madame Chazal. Après Sarkozy, Dominique Pellicot, ça va faire beaucoup de mal à l'édition, cette mode des prisonniers écrivains. Moi, vous savez, je voulais sortir un bouquin. J'ai clairement la flemme d'aller en prison.
Ouais.
Je vais pas faire ça. Hein. Les émissions littéraires.
Bonjour et bienvenue dans la grande librairie. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Demange pour son livre. Alors, combien de temps vous avez été en prison?
J'ai pas fait de prison.
Tu sors un livre sans avoir fait de prison? Mais dégage, imposteur, salopard. Déjà que pour faire du rap, faut aller en prison. Pour faire des bouquins, faut aller en prison.
Ouais.
Pour faire de la politique, faut aller en prison. C'est la Sorbonne, la prison. Hein. C'est le coin où aller.
C'est la plus intello, effectivement, désormais.
Je ne soupçonnais pas.
Arnaud Demange, tous les matins, 7h20, 8h20. Et à tout moment, en podcast sur RMC. Il est 8h20 et je vous l'avais promis.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
C'est la folie, parce que c'est l'ouverture du calendrier de l'Avent et c'est Nathalie qui a gagné. Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie. Apolline, bonjour à toute l'équipe.
Félicitations, vous êtes notre première gagnante de ce calendrier de l'Avent. On va l'ouvrir ensemble, vous êtes dans la Drôme, je crois, c'est ça?
Oui, je suis à Saint-Barthélemy de Vals, c'est ça.
Alors on ouvre la petite case numéro 1. Attention, j'ouvre cette petite case du calendrier de l'Avent et vous avez gagné Nathalie. Oh, vous avez gagné l'iPhone 17.
Non.
C'est parfait.
Le tout dernier smartphone de chez Apple d'une valeur de 669 €. 669 €. Félicitations Nathalie.
Eh ben, merci beaucoup, merci à vous, toute l'équipe. Vous êtes sympa, on vous regarde tous les matins avec mon mari.
Eh ben,
donc c'est trop cool.
On vous embrasse tous en famille.
Merci,
j'ai l'impression
beaucoup
de faire le juste prix ce matin sur RMC. J'en ai toujours
plus,
vous voyez.
C'est
et
plus.
c'est plus. Félicitations Nathalie, tous les matins, un gagnant. Chaque matin jusqu'à Noël, on va ouvrir le calendrier RMC de l'Avent, le fabuleux Noël RMC tous les jours jusqu'au 24 décembre. Félicitations Nathalie, 8h21. Dans un instant, on poursuit notre matinale spéciale pouvoir d'achat. Mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc, le quasi-représentant de la grande distribution. C'est aujourd'hui donc que se décident les prix, début de la négociation commerciale. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui baisse? On va faire le tour des rayons avec Michel-Édouard Leclerc. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h28 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Vous
Bonjour
êtes
Apolline.
Le président du comité stratégique et porte-parole du mouvement Leclerc. Vous êtes le quasi-représentant, enfin, en tout cas aux yeux des Français, de la grande distribution. C'est aujourd'hui, ce matin, que commencent les fameuses négociations commerciales. 3 mois d'un véritable psychodrame national qui revient chaque année, où vous êtes autour de la table, vous la grande distribution, eux les marques, les grands industriels, c'est Nestlé, c'est Danone, mais c'est aussi les PME. Et 3 mois pour décider de fixer les prix. On va y revenir parce que ça se fait parfois dans la douleur et dans la brutalité, mais à la limite, ça c'est ce qui se passe en cuisine. Ce qui importe les Français, c'est de savoir ce qui va en ressortir de cette cuisine, c'est-à-dire de savoir quels seront les prix à la fin. Au moment où on se parle, vous voyez une année à la hausse ou à la baisse ?
Pratiquement tous nos fournisseurs présentent des tarifs à la hausse, puisque par principe, ils savent qu'on va leur demander des baisses. Et une négo, ben, c'est un grand classique, c'est un ballet c'est la danse du cygne, hein, faut arriver à
vous
rester.
Vous dites que c'est une danse, moi j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un bras de fer, mais.
Non, il y a des fois c'est une danse. Non, faut savoir qu'il y a qu'en France que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que toutes les grosses boîtes avec qui on est amené à discuter ne font ça qu'en France. C'est-à-dire que, on prend le Thalys, on va à Bruxelles, on va à Francfort, on va au siège de Lidl, on va au siège de Aldi, on va au siège de Costco, on va aux États-Unis chez Walmart. Les mêmes, les Nestlé, les grandes marques internationales n'ont pas à monter comme ça sur l'estrade et à faire la danse du cygne. On négocie tout le temps, mais en France, on est plus intelligent que les autres, donc on a.
Je sens que vous le dites avec une certaine ironie.
Oui, parce que ça fait 40 ans que j'ai appris ça. Moi, je suis aussi président d'une école de commerce, et quand j'apprends à des étudiants étrangers qui viennent à Neoma Business School, c'est-à-dire à Reims, à Paris ou à Rouen, comment se fait la négociation commerciale, ça les fait marrer de voir comment c'est en France, alors comment par rapport à chez eux, quoi, un Vietnamien, un Chinois, un Sud-Américain.
Oui, mais Michel, Edouard Leclerc.
C'est un classique, c'est du Molière.
C'est-à-dire qu'il y a une forme de comédie, mais il y a aussi une forme de tragique. Parce que face à vous, bien sûr, vous avez des Nestlé, des Coca, des Danone, qui sont pas impressionnés. Vous connaissez les règles du jeu, vous comme eux, et ça fait des années que vous pratiquez. Mais vous avez aussi, face à vous, des PME, des biscuiteries, des charcuteries locales, des plus petites marques, et qui disent de vous que vous les écrasez. C'est notamment ce que disait le président de l'ANIA il y a un an, qui disait la grande distribution nous écrase.
Ouais, alors les gros disent ça, mais ça se passe plutôt bien avec les petits. Et en tout cas, l'intérêt de la charte.
Vous avez signé une charte.
Ouais.
Tous ensemble. Hier.
Ouais.
C'est-à-dire les marques, la grande distribution, une charte de bonne conduite en quelque sorte pour ces négos.
Voilà.
Est-ce que ça veut dire que cette année ça va être différent, que tout le monde va
ça
bien s'entendre?
Ça va être différent, ça va être mieux qu'au Parlement par exemple.
Oui.
C'est un joke, mais
ça je sens bien que vous vous dites au fond ils nous font la leçon les politiques, mais enfin ils ont qu'à regarder comment ça se passe dans l'hémicycle.
Ouais, ouais.
Mais enfin, quand même.
Je fais pas le panneau ou le Mélenchon. Non, ça se passe. Franchement, c'est plus dur d'être petit par rapport à un gros. Quand les marchés se retournent, ceux qui n'ont pas l'appui d'un système bancaire, ceux qui n'ont pas de trésorerie, c'est vachement dur pour eux. Vous avez vu le chocolat, il a comme par hasard augmenté de près de 55% ces deux dernières années, et là il s'effondre. Donc il y a de la spéculation. Quand vous êtes petit et que vous êtes dépendant d'un approvisionnement, c'est plus.
Difficile sur le prix du chocolat, ouais. Sur le prix du café, sur le prix de la viande bovine qui explose aussi. Mais puisqu'on évoque cette fameuse charte, vous vous êtes donc tous mis d'accord et vous avez signé cette charte. Moi, je l'ai quand même lue, cette charte, elle est hallucinante parce que, pardon, mais quand on a besoin d'écrire noir sur blanc, je cite, que dans la mesure du possible, il faudrait respecter les horaires fixés pour les rendez-vous. Maintenir en toutes circonstances un climat de respect mutuel via une communication courtoise, ça veut quand même dire en creux que jusqu'à présent c'était pas le cas.
Ça veut dire non, c'est pas ça le. Oui, ça pourrait dire ça vu de l'extérieur. Non, dans la réalité, seul le distributeur aujourd'hui était coupable. Quand l'administration faisait un procès,
c'était vous les méchants.
C'était nous les méchants. Et là, les industriels sont co-signataires de cette charte et donc ils sont co-responsables de la pratique.
Oui, mais enfin, qui fait attendre?
C'est nouveau.
Qui fait attendre pendant des heures parfois la petite biscuitière qui est venue spécialement de province pour venir négocier? C'est quand même pas les industriels, c'est plutôt la grande distrib.
Alors,
en vrai,
dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Hein.
Okay.
C'est beaucoup par internet, c'est beaucoup par mail. Cette idée qu'on est dans une cage. Enfin, franchement, c'est.
Donc, ça n'est pas un ring de boxe.
À 74 ans, j'ai quand même vécu 40 ans de distribution.
C'est pas un ring de boxe.
Mais c'est l'intérêt, disons, de la pression exercée sur les distributeurs que de raconter ça. En tout cas, cette charte a le mérite. D'abord, que c'est un signal qui a une volonté orchestrée par les pouvoirs publics ou les fédérations. Je pense que la fédération du commerce, d'ailleurs, y est pour quelque chose. La deuxième chose, c'est égalité, sauf pour les PME qui passent devant. C'est-à-dire que les PME doivent être négociées avant les industriels. Et puis, il y a une autre information dans cette charte, c'est qu'on ne discute pas, c'était dans la loi déjà, mais on ne discute pas de la matière première agricole. C'est-à-dire que si la matière première agricole a augmenté, on accepte pourvu qu'elle soit transparente.
Il y a un... On ne descend pas en dessous du prix de la matière agricole.
Voilà.
De ce point de vue-là d'ailleurs, et j'ai eu de nombreux témoignages sur RMC qui en témoignent, les agriculteurs eux-mêmes disent que ça reste, leur vie reste très compliquée, mais ils sont quand même mieux rémunérés qu'il y a quelques années. De ce point de vue-là, la loi Egalim fonctionne concrètement.
Le seul problème qu'on a, c'est que pour les produits transformés, nous ne sommes pas les premiers acheteurs de produits agricoles. Nous sommes acheteurs de produits transformés, de biscuits, de confitures, etc. Et nous n'avons pas toujours la connaissance de la matière, du prix de la matière.
De ce qui s'est passé avant, voilà. C'est-à-dire entre l'agriculteur et l'industriel.
Même quand c'est des coopératives, elles disent pas le prix forcément payé aux producteurs. C'est pour ça que, par exemple, pour nos marques de distributeurs, nous privilégions les contrats tripartites. Par exemple, j'achète des haricots verts, Leclerc achète des haricots verts à Bonduelle, on les achète en même temps avec leurs producteurs. À Dossi, c'est pareil. Donc ça, c'est intéressant.
Et dans ces cas-là, au lieu d'être juste l'industriel et grande distribution autour de la table, Vous rajoutez l'agriculteur.
Alors maintenant, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire, on revient à votre question de départ. Là, on pensait avoir, avec cette compétition entre Leclerc, Intermarché, Système U,
parce
Lidl...
Parce que la guerre des prix, elle est relancée, on peut le dire.
Non, c'est la concurrence. En France, on n'aime pas la concurrence, donc on dit la guerre des prix. Mais dans la réalité, si l'inflation a été vaincue, c'est pas par la politique monétaire, c'est pas par le bon vouloir du politique, c'est parce qu'il y a une concurrence accrue dans le monde de la distribution. Et franchement, mes concurrents ont bien joué le jeu. Je le dis. C'est fair play, ça castagne, mais Intermarché a repris par exemple des magasins Casino qui étaient jusqu'à 30% plus chers qu'un centre Leclerc. Rien que quand il le reprend, il baisse les prix. C'est pareil quand il va franchiser des Auchan, ce sera moins cher que le Auchan aujourd'hui. Quand Carrefour reprend des Cora, c'est pareil. Vous voyez, il y a aujourd'hui dans la distribution française et notamment chez les indépendants une volonté dans nos territoires d'être les moins chers.
Quand on distingue les indépendants des autres, c'est la question aussi du rapport financier à l'entreprise. Leclerc, les magasins U, Intermarché, ce sont des indépendants, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un patron à la tête d'un magasin, même s'il y a une franchise globale. Michel-Édouard Leclerc.
Ce qui est important, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit entre le cours boursier et le manager. Le manager, c'est à lui le magasin. S'il dit, je veux pas augmenter mes prix de 20%, je vais me faire tirer dessus, je vais me faire caillasser, je décide de faire une année blanche, il va le faire. Alors que c'est un salarié de Carrefour, d'Auchan ou de Costco,
de ceux qui ne
il
ne
va
pas
oser
les indépendants,
le faire.
Comme vous dites, c'est ça la distinction. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que, je vous repose la question, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça descend? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez pouvoir réussir? Vous avez dit cette phrase, vous avez dit l'inflation a été vaincue.
Oui.
Est-ce que effectivement vous vous dites bon on va peut-être avoir une hausse mais elle sera de l'ordre vraiment d'une toute petite inflation, on n'est plus du tout dans les grandes années de l'inflation.
La dynamique induite par les transformations de la distribution, l'arrivée des plateformes du web très dynamiques et très perturbatrices, y compris dans des conditions polémiques.
On va revenir sur Chine.
Le fait aussi que les grandes marques industrielles en aient pris un sacré coup après 22% d'inflation en deux ans où ils ont tapé, les grandes marques ont tapé le portefeuille du consommateur, tout ça, ça se recale et je pense qu'on va arriver à... On va pas restituer les hausses d'hier, mais je pense que c'est calmé.
C'est calmé,
ouais.
Même si on a le sentiment...
Il y aura une inflation entre moins 0,1 et plus 0,1, quoi.
Donc ça, c'est vraiment quasiment, ça veut dire que les prix vont être stables cette année.
Je pense.
Vous pouvez nous dire cette année,
ouais,
je me souviens que plusieurs mois avant, vous aviez été en mesure de dire à ce micro, lorsqu'on allait vers une inflation à 5%, vous étiez le premier à l'avoir dit avant même que ça ne soit visible, perceptible par le consommateur. Là, vous nous dites, si tout se passe bien... On reste à des prix stables.
Ouais, je pense que on est parti pour ça. Alors, il y a des produits, ça va peut-être bouger, hein, mais on parle macroéconomiquement.
Quand on parle globalement de son...
On vise la stabilité.
De son caddie en entier, même si quand on regarde effectivement dans le détail, il y a trois produits qui attirent mon attention ce matin. La question du café, la question du chocolat et la question de la viande de bœuf. Mmh. Le café, est-ce que c'est pas en train de devenir un produit de luxe?
Il s'est fait beaucoup de yo-yo, quoi. Alors, il y a eu des conditions météo, il y a beaucoup de rationalité, quand même, derrière l'évolution du cours du café. Ce que je sens moins derrière le chocolat. Chocolat, vous avez vu, ça n'a pas arrêté d'augmenter jusqu'à ces polémiques. Y aura-t-il du Lindt chez Leclerc?
Bah, je vous pose la question. Y aura-t-il du Lindt chez Leclerc?
Il y aura du Lindt chez Leclerc, mais il n'y aura pas forcément les paquets cadeaux à plus 55%.
Attendez, prenons le temps. Vous êtes en train de me dire, il y aura du Lindt chez Leclerc.
Je réponds, hein. Je vous ai répondu.
Justement, vous avez répondu, mais un peu en
loose. Vous aimez le chocolat, vous.
Michel-Édouard Leclerc. C'est à la fois pour Lindt d'ailleurs, parce que c'est quand même une grosse part de leur chiffre d'affaires dans vos rayons, mais aussi pour tous les consommateurs juste avant Noël. Il y aura du Lindt dans les rayons?
Il y aura du Lindt dans les rayons.
Est-ce qu'il y aura du Lindt Noël dans les rayons?
Je ne sais pas. C'est pas fait.
Ça se joue quand, là? Maintenant?
Quand ils voudront.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle est dans leur camp?
Ouais.
S'ils acceptent de baisser leur prix, vous les prenez. Mais sinon, c'est
aujourd'hui,
non.
C'est eux qui présentent le plus fort taux de hausse. D'accord? Donc, je suis élégant, je respecte la charte, je balance pas en public. Juste cette réponse à vous, parce que c'est vous. Mais c'est la négo.
Donc, au moment où on se parle...
Il faut vous dire qu'un fournisseur, un industriel, n'assume jamais ses hausses chez le distributeur. Qui s'appelle L'Oréal, Danone, Lindt ou autres. Ou les pâtes, par exemple, qui avaient augmenté de 38%, je ne sais pas si vous vous rappelez, au lieu de tournesol, là, il y a quelques années. Il n'y a pas un industriel qui est venu dire « Je suis obligé, à cause de la guerre en Ukraine, d'augmenter mes pâtes de 38%. » Et pourtant, c'est ce qui s'était passé. D'accord ? Donc, celui qu'on regarde, c'est celui qui tient le magasin. Donc, nous... Nous refusons, nous préférons ne pas travailler avec des gens quand c'est de la spéculation, quand on comprend pas ou quand c'est pas transparent.
Pour que les choses soient très très claires, Michel-Edouard Leclerc, au moment où on se parle, il y a des Lindt dans les rayons, mais qui sont des Lindt, j'allais dire, de stock ou de moments courants. En revanche, normalement, là, on est à 3 semaines de Noël, c'est le moment où on voit en tête des rayons des Lindt ou autres, ou des Kinder ou de je ne sais quoi, qui sont des calendriers de l'Avent, qui sont des chocolats spéciaux pour Noël, qui sont des coffrets de Noël. C'est cela que pour l'instant on ne trouve pas dans vos rayons.
Ouais, je vois que vous aimez le chocolat.
Disons que je suis en tout cas la ménagère de moins de 50 ans responsable des achats, on peut le dire, ça c'est sûr, et je l'ai bien vu. Concrètement, vous nous dites pas que c'est impossible.
Non.
Vous nous dites que la balle est dans leur camp, que si demain ou ce matin ils viennent vous voir et ils disent OK, on va rester raisonnable. Il y aura une hausse, mais qui sera comparable à celle des autres chocolatiers. C'est-à-dire que Kinder, par exemple, ils vous ont fait augmenter leur prix, mais pas autant que Lindt.
Tous les autres ont été raisonnables.
Les autres ont été raisonnables.
Ça,
Donc on trouve des Ferrero Rocher, on trouve des Kinder, on trouve pas de Lindt.
Ouais.
S'ils reviennent avec un prix
on les accueille.
Acceptable, vous les remettrez tout de suite, donc on les retrouverait demain ou après-demain dans les rayons.
Ouais.
Ça serait à effet immédiat. Donc c'est pas complètement fermé.
Non.
Michel-Edouard Leclerc, voilà pour le chocolat. Ce que vous leur reprochez, c'est de jouer sur une spéculation réelle, c'est-à-dire que oui, le prix du chocolat a augmenté, mais de gonfler leur marge.
Ils prennent leur mise, quoi. Bon, ok. Alors que nous, on pense que quand ils ont la taille qu'ils ont, alors je parle pas que de Lindt, je pense d'une grande multinationale comme la marque Lindt. Ils ont la capacité, même si le cacao augmente, même si le café augmente...
De lisser
les choses, vous voyez. Parce que c'est ça, un peu, dans la période d'incertitude d'aujourd'hui, une PME, c'est sûr, elle a tendance à prendre sa mise en se disant, demain, je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais une grande multinationale, elle peut amortir ça.
Donc, les PME ont joué le jeu et Lindt ne joue pas le jeu.
Je dis pas plus.
J'ai bien compris. Michel-Edouard Leclerc.
J'ai signé la charte. Hein.
Vous avez signé la charte.
Élégance,
vous
restez...
Ouais. En tout cas au micro.
Par contre, je peux vous dire un truc. Moi, de toute façon, mes collègues, on n'a pas l'intention de se laisser manger par la spéculation. C'est arrivé une fois. On n'était pas bien outillés. On avait demandé à tous les députés une commission d'enquête sur l'augmentation du prix exorbitant des conteneurs pendant le conflit en Ukraine, pendant le Covid. On a demandé des commissions d'enquête sur l'origine de l'inflation. Les députés n'ont pas mis ça à leur agenda, donc on s'est retrouvés tout seuls. Et on a vaincu cette inflation tout seul, dans la compétition avec nos collègues. On va pas y revenir. On va aller chercher des baisses. Je pense que entre les demandes de hausse des industriels et nos demandes de baisse, on va arriver à une stabilité, mais il faut qu'on demande des baisses.
Michel-Edouard Leclerc, le carburant, il y a encore une hausse d'une taxe qu'on n'avait pas vraiment vu venir, une sorte de taxe sur la transition énergétique qui va reposer sur l'essence et le gaz. Est-ce que les prix vont augmenter? Est-ce que vous allez réussir à les retenir, les prix du carburant?
Je sais pas. J'ai pas de, comme vous me l'avez dit un jour, j'ai pas de boule de cristal. Et non, il y a 3 variables sur le prix du carburant. Le prix de la matière brute. Ce qu'on fait de la matière brute, c'est-à-dire que moi je vends pas du pétrole brut, je vends du gasoil. Et si d'une tonne de pétrole brut on a fait trop de kérosène, le gasoil il en manque, hein, d'accord. Il y a le cours du dollar. Donc aujourd'hui, tous les jours, on a une société coopérative chez Leclerc qui achète du gasoil, par exemple, qui achète toutes les heures pratiquement du gasoil, qui achète toutes les heures du dollar, et puis le reste on vend des taxes. 70%, c'est des taxes. Donc ce
là,
dont on parle là,
encore une petite taxe,
en plus.
Est-ce que vous allez faire des prix coûtants
Ouais.
Là pour la fin de l'année,
on sera le moins cher. On sera le moins cher. Je vous jure qu'on sera le moins cher. C'est cette année, je suis désolé, ça fait un côté pub, mais on a tous les relevés sur le site du gouvernement, vous pouvez aller voir.
Oui, de toute façon, tout ça est transparent.
Tout ça est transparent. On est à 75% Leclerc en 2025. On a tout le temps, on a été à 75% les moins chers et à 95% l'un des trois moins chers. On était sur le podium. Et le deuxième, c'est souvent Système U, avec qui on achète des carburants.
Vous disiez, Michel-Edouard Leclerc, que l'arrivée des plateformes avait aussi perturbé le jeu.
Oui.
Le gouvernement veut suspendre Chine. Et vendredi, il y aura la procédure de suspension donc, qui a été engagée par le gouvernement, qui va être examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Il s'engage, on l'entend bien, hein. On entend Serge Papin, le ministre du Commerce, qui clairement veut la peau de Chine. Vous estimez que c'est le rôle de l'État, là ?
Non. Le rôle de l'État, pour moi, c'est de faire appliquer le droit, c'est-à-dire d'exiger de Chine de respecter les normes. C'est comme pour le Mercosur, hein. On fait pas rentrer n'importe quel produit, et l'État en convient. C'est pour ça qu'on n'a pas signé encore Mercosur. Donc, que ce soit Chine ou quelqu'un d'autre, il faut, le rôle de l'État, c'est de faire respecter les normes. Moi, si je vends un jouet qui est pas conforme, ou un restaurant qui n'est pas conforme, on le fait fermer, ou on lui interdit, on enlève le jouet.
Donc ça, c'est la règle du jeu.
Et là, il le fait pas. Bon, ça, c'est une première chose. Donc ça, deuxième chose, ce sont des produits de la zone Indo-Pacifique, pas que chinois, hein. On a tendance à dire que c'est chinois. C'est de la zone Indo-Pacifique, jusqu'à la Turquie et l'Azerbaïdjan, d'ailleurs. Les contrôles de qualité, c'est aux douanes de les faire. L'État découvre, 6 ans après l'arrivée de Chine en France, son pouvoir extrêmement perturbateur. Mais surtout, il y a l'affaire Chine, puis il a déconné avec sa place de marché, avec ses produits pédopornographiques, et tout ça, c'est incompréhensible pour moi qu'il n'ait pas contrôlé ce qui se passe chez lui. Mais par contre, derrière Chine, il y a plein d'autres plateformes qui vont arriver. C'est-à-dire, vous avez JD, Jinjong, qui va arriver en actionnaire de la Fnac et de Darty. Vous avez d'autres plateformes chinoises, en Etsy, qui va arriver. Vous allez avoir AliExpress qui va se développer.
AliExpress est
numéro 1 en Chine, c'est pas Chine. Hein. Et puis, vous allez avoir des plateformes indiennes, vous allez avoir des plateformes africaines, des plateformes d'Amérique latine. Le Nigeria, c'est 300 millions d'habitants. Ils amortissent très, très vite.
Mais je comprends pas, Michel Edouard, ouais. Ça veut dire vous dites au gouvernement de jouer son rôle, c'est-à-dire de vérifier, de ne pas interdire ces choses-là, mais d'interdire les produits qui ne respecteraient pas les normes.
Voilà, la direction des fraudes doit faire son boulot. Je suis solidaire des commerçants qui s'estiment être lésés dans une distorsion de concurrence, mais franchement, c'est pas aux commerçants d'aller chercher le droit, c'est à l'État de faire appliquer le droit qu'il fait appliquer par ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut anticiper, pas simplement être en défense. Ça suffit pas de dire Chine, j'en veux pas, Temu, j'en veux pas. Et ça s'est passé déjà pour Primark. À Primark, quand il est arrivé en France, on a dit que c'était de la merde. Aujourd'hui, c'est la marque préférée des Français avec Kiabi. Vous voyez ? Donc, moi, en tant qu'acteur, en tant que concurrent, mon sujet avec les centres Leclerc, c'est de nous préparer au nouveau modèle de plateforme industrielle.
Et de pas juste jouer en défense, quoi.
Et pas juste jouer avec... Voilà, il y a deux grands philosophes qui nous ont plantés, c'est Astérix et Goscinny, qui ont fait croire que les Romains sont jamais venus en France et que le village gaulois a résisté. C'est pipo. C'est adorable, mais c'est pipo, hein, d'accord ? Donc aujourd'hui, toutes ces plateformes commerciales vont arriver en France, avec des financements anonymes, étrangers, bancaires, et donc à nous de nous préparer, à nous commerçants, de nous préparer à cette offensive.
Merci Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique et porte-parole du mouvement Leclerc, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h48 sur RMC BFM.
Enfin, manger du chocolat.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Michel-Edouard Leclerc, le vrai Michel-Edouard Leclerc, est resté dans ce studio. Rebonjour Michel-Edouard Leclerc.
Rebonjour, rebonjour à Pau, rebonjour Nico.
Et justement, on parle de pouvoir d'achat ce matin. Marine Le Pen, vous vouliez réagir.
Oui, bonjour madame. Écoutez, j'ai bien entendu monsieur Leclerc se... grand danseur de l'Opéra de Paris et qui danse merveilleusement bien apparemment le Lac des Cygnes. Et je l'ai entendu avec sa recherche obsessionnelle du prix le plus bas.
Oui.
Mais cette recherche sur les produits de première nécessité m'inquiète. Les œufs, la farine. Résultat, n'importe qui peut se procurer ses armes et commettre un attentat. Nous l'avons vu avec Montjordan. Utilisées à bout portant, ce sont des armes, vous le savez, redoutables. Montjordan, oui, on a voulu attenter à la vie de Jordan. Avec un œuf, peut-être, mais pas n'importe quel œuf, Madame de Malherbe. Il ne s'agit pas d'un œuf plat, un œuf au plat, un œuf dur, un œuf brouillé. Non, c'était un 9 mm.
Ah, c'est ça.
Aujourd'hui, du coup, Jordan est devenu le Trump français, le John Fitzgerald Kennedy du 9-3.
Oui, enfin, n'exagérons rien. Il va bien quand même.
Écoutez, aujourd'hui, je peux vous le dire, son pronostic vital n'est pas engagé. Ah. Mais comme il ne peut plus sortir de chez lui apparemment sans recevoir la recette de la pâte à crêpes, nous avons décidé en comité du Rassemblement National que désormais toutes les sorties de Jordan se feront en papa mobile.
Ah, en papa mobile, c'est intéressant. Merci beaucoup Marine Le Pen. Éric Zemmour, vous êtes passé par là aussi, hein, farine, œufs, et c'était d'ailleurs le même auteur de 74 ans.
Bah, attendez, mais c'est pas fini, hein. Là, parce qu'avec les super promos de Leclerc à Noël, excusez-moi, hein, et qu'est-ce qu'ils vont nous balancer sur la tronche avec leur nouveau pouvoir d'achat, hein. Du saumon fumé à 11,88 € tranches, hein. Du foie gras marque repère à 4,65 € les deux blocs, ou pire, du jus de tomate de Marmande, et pourquoi pas de la tapenade du niçoise, ou du caramel au beurre salé de sel de Guérande, hein, hein. Et tout ça pourquoi, hein, monsieur Leclerc, pour prouver que nos régions ont du talent, c'est ça, hein. La seule chose pour laquelle Bardella est à l'abri, pardonnez-moi, c'est le jet de choucroute, hein. Strasbourg, il connaît pas, il a jamais mis les pieds au Parlement européen, hein.
Donc pour vous, tout est de la faute de la grande distribution, monsieur Zemmour.
Bah oui, la grande distribution. Écoutez-moi, ça me fait du mal de dire ça, hein, mais quand c'est vendu chez le petit arabe du coin, pardon, mais au prix où il t'allume, il y a moins de risque de prendre la marchandise sur la tronche.
Merci, monsieur Zemmour. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour Apolline, bonjour Michel-Édouard Leclerc. C'est parti pour les titres après l'annonce d'Emmanuel Macron d'une interdiction prochaine des smartphones dans les lycées. De nombreux élèves réfléchiraient déjà à se faire incarcérer dans une prison française afin de pouvoir utiliser leur téléphone en toute liberté. Et puis, on revient sur l'évasion à la prison de Dijon pendant le vendredi du Black Friday. Pour un détenu évadé, le deuxième était offert. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, souhaitait réagir.
Oui, écoutez, bonjour monsieur Texer, madame Delherbe, monsieur Edouard Leclerc. Écoutez, suite à la pénurie d'établissements pénitentiaires dans notre pays, nous avons décidé, en guise de test, de réquisitionner un magasin IKEA pour y enfermer les détenus les plus susceptibles de voir s'échapper. C'est vas-y. En effet, le temps qu'il fasse tout le parcours pour réussir à trouver la sortie laissera largement le temps aux forces de l'ordre d'intervenir pour pouvoir être préparés.
Excellent, merci beaucoup monsieur Darmanin, très bonne idée, merci. Poursuivez Thibault.
Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, va recevoir aujourd'hui à l'Élysée Volodymyr Zelensky pour la 132e fois de l'année. Le président Zelensky va se plaindre à son homologue français que Trump ne l'écoute pas. Heureusement, le président Macron pourra le réconforter en lui disant que lui, de son côté, c'est Trump qui ne l'écoute pas, Poutine non plus, 60 millions de Français, et même son chien Nemo ne l'écoute plus. Bruno Le Maire tenait à réagir.
Oui, écoutez, ça a deux secondes, hein? Son petit manège à Zelensky.
Mais enfin, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais puisqu'on cherche du pognon, hein, pourquoi on lui demanderait pas de payer une petite taxe d'habitation sur sa résidence secondaire? Non, hein, il est à l'Élysée la moitié du temps, Zelensky, hein. Il y a des sous à lui gratter, quand même.
Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci Thibault. Antoine Dupont nous fait le plaisir d'être avec nous pour la première fois ce matin. Cher Antoine, bonjour. 9 mois après une grave blessure au genou, vous avez fait votre retour sur les terrains du top 14, et vous avez même prolonger votre contrat avec le Stade Toulousain, jusqu'en 2000.
C'est Toulousain.
Toulousain,
c'est pas Toulousain.
Toulouse. Jusqu'en 2031. Toulouse.
Oui, j'ai signé parce que j'ai avant tout écouté mon corps. C'est mon genou qui m'a convaincu quand il m'a dit « Vas-y Antoine, fonce, tu signes pour 6 ans, vas-y, moi en tant que genou, même si je tiens qu'un an, ça te fera quand même une belle retraite. »
C'est malin.
J'ai consulté quand même ma rotule qui m'a confirmé cette bonne décision. J'ai posé la question à mes ligaments croisés, tout le monde était d'accord pour signer. Bon, c'est vrai que quand t'as bientôt 30 ans comme moi, que t'es sur une jambe et qu'on te propose de jouer 6 ans de plus au
rugby. Tu te dis qu'en face de toi, bon, mais t'as pas Michel-Édouard Leclerc, t'as plutôt un président de club qui est pas tout à fait lucide, voire même à moitié con. Hein. Il y a une opportunité de hold-up à saisir, donc je l'ai saisi.
Pas le meilleur côté business, en effet, pour lui. On vous a découvert un côté très people ces derniers temps, très joliment entouré d'ailleurs. Hein.
Oui, justement, raison de plus d'avoir signé ce joli contrat. Quand on sort avec une Miss Univers, c'est compliqué de suivre au niveau financier. Il faut un certain pouvoir d'achat. Voilà. On est en plein dans le thème de la journée. Elle a des caprices, donc je peux pas la mener au flunch ou au manège à bijoux de Monsieur Leclerc. J'ai beau être rugbyman, j'ai quand même un peu peur de me faire plaquer.
Merci Antoine Dupont. Ah tiens, Sandrine Rousseau vient d'entrer dans ce studio. Vous vouliez parler rugby, Madame Rousseau?
Non, ne comptez pas sur moi pour parler de ce sport masculiniste. Je vous ai écouté ce matin, vous receviez Michel-Édouard Leclerc. Bien, c'est une arnaque. C'est une arnaque, quand je suis en boucle, je répète les choses. Hein. Savez-vous que ce monsieur Leclerc porte le même nom que l'enseigne du même nom? Hein, c'est de la publicité déguisée. Heureusement que je suis là parce que personne ne l'avait vu. J'ai alerté Que Choisir. J'ai alerté 60 millions de consommateurs. Ils ont fait de nombreux tests sur les deux noms. Eh bien, comme par hasard, les deux produits sont les mêmes. Il y a le même nombre, la même dose de voyelles, la même dose de consonnes. Bref, Michel-Édouard Leclerc et les centres Leclerc, c'est les mêmes. Hein, est-ce que vous avez interrogé Jean-Michel Intermarché? Non, jamais. Hein. Ni Hervé Claude Aldi, ni René Charles Coxy Marquette, jamais. Voilà. CQFD, heureusement que je suis là.
Merci Nicolas Cantelou. Pas ça, Cantelou, on se retrouve à tout moment en podcast. Merci aussi à Michel-Édouard Leclerc d'être resté avec nous. Dans un instant, c'est les GG, en public et en direct, au carreau du Temple, au cœur de Paris, J-100 avant les municipales cette semaine. Les grandes gueules reçoivent les maires de Nice, Perpignan et Montpellier. C'est dans un instant.